Bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être à l'écoute de cette émission. Nous allons parler, bien sûr, en première heure de la situation un peu partout sur la planète. Il y a des foyers d'inquiétude, là. Vous avez vu ce couvre-feu en France et des mesures qui ont été renforcées un peu partout ailleurs en Europe. En France, en tous les cas, ça va toucher plus de 20 millions de Français. Dans la plupart des grandes villes, d'ailleurs, françaises, on va imposer à partir de samedi un couvre-feu à partir de 9 heures du soir, 21 heures, jusqu'à 6 heures le lendemain matin, plus un chat dans la rue. Sincèrement, je vous avoue, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, hey, mon Dieu, je peux même pas imaginer qu'on ait à vivre ça, nous. C'est le premier ministre, évidemment, c'est le président français qui en a fait l'annonce hier, Emmanuel Macron. Pour les Français, ça a une drôle de résonance, parce qu'un couvre-feu comme ça, ça signifie vraiment qu'on est quasiment, effectivement, en période de guerre. Vous savez, on le fait souvent, cette analogie, même nous ici qui l'avons connue de loin. On a souvent fait l'analogie entre la pandémie qu'on vit et la Deuxième Guerre mondiale. Et pour les Français, là, le couvre-feu, il n'y en a pas eu tant que ça, là, d'après ce qu'on a pu retrouver comme information, nous, ce matin. Il y a eu trois occasions où il y en a eu. L'occupation nazie, la guerre d'Algérie, et là, troisième couvre-feu de l'histoire de Paris. Mais le premier, en temps de paix, c'est pas rien, ça veut dire quelque chose, Emmanuel Macron.
Un couvre-feu qui va s'appliquer à la région Île-de-France. Le virus circule très activement. Et à 8 métropoles, en plus de la région Île-de-France, ce couvre-feu, il se fera entre 21h et 6h du matin. Et il commencera à partir de ce samedi, 0h. Il durera 4 semaines. Nous irons devant le Parlement pour pouvoir essayer de le prolonger jusqu'au 1er décembre. Et il y aura des amendes, comme il y en a déjà pour justement beaucoup d'infractions prévues. Donc ce sera une amende de 135 euros. En cas de récidive, c'est 1500 euros.
Ils y vont pas avec le dos de la cuillère, c'est le cas de le dire. C'est assez important. Et j'imagine à peine ce que ce serait si on avait, nous ici, à vivre ça. Vous allez me dire, aux États-Unis, on a une certaine habitude de couvre-feu parce que on l'a vu dans le cadre de manifestations, des émeutes raciales dernièrement, quand des gens sont descendus dans les rues de Louisville, dans le Kentucky, pour dénoncer le travail des policiers et leur impunité dans le cas du meurtre de l'Afro-américaine Breonna Taylor, en tout cas du fait que des policiers l'avaient tuée. Bref, il y a aux États-Unis plus de raisons de faire des couvre-feux. Je vais vous poser la question ce matin. Si on avait ce genre de mesures, s'il fallait que nos autorités en viennent là, quelle serait votre réaction? Il semble qu'une majorité de Français, plus de 70%, soient d'accord avec ça. Nous ici, si vous pensez que le masque, c'est dérangeant, imaginez un couvre-feu. Je vais vous entendre là-dessus, 514-790-9850, de l'extérieur de la région de Montréal. Vous faites le 1-866-790-9850. Puis je trouve ça intéressant de se poser cette question-là, pas parce que c'est quelque chose qui est forcément considéré par nos instances ici au Québec. Là, il n'y a pas été question de couvre-feu jusqu'à maintenant. Mais regardez un peu la tangente que ça prend. Hier, on nous parle encore de 1200 infections chez nous. On parle du fait que, là, on fait ressortir le nombre d'employés de la santé qui sont morts de la COVID dans la première vague, pendant le confinement. Les chiffres sont sortis, là. On fait aussi état du fait qu'il y a de plus en plus de gens qui sont à bout de souffle. Bref, ça sent mieux de pas, là. Alors, est-ce qu'un couvre-feu, si on vous l'imposait, vous le respecteriez? Pour en discuter, parce que c'est une question d'éthique aussi, fait qu'on aime bien parler à notre éthicien René Villemur. Bonjour, René.
Bonjour, Isabelle.
Merci d'être là. Jean-Pierre Charbonneau est ex-député du Parti québécois, ex-président de l'Assemblée nationale du Québec. Donc, comme c'est une question politique également, Jean-Pierre, puis très émotive, là, parce que ça nous touche directement dans nos droits de sortir, le droit d'exister dehors, pas juste chez toi, n'est-ce pas? Je vais vous entendre là-dessus. Je commence avec René. Un couvre-feu en France, on va regarder comment les Français vont apprécier ça, mais chez nous, est-ce que la réaction serait émotive, René Villemur?
Il faut voir, hein, avant toute chose, il y a également le couvre-feu en France et l'interdiction des fêtes privées.
Oui, aussi, c'est vrai.
C'est pas rien. Ici, le couvre-feu, c'est pas quelque chose qui est dans nos mœurs. On n'a pas eu à le vivre vraiment. C'est pas, on n'a pas le même, je dirais, référent qu'en France. Mais néanmoins, il faut comprendre qu'est-ce que c'est qu'un couvre-feu, au-delà de la modalité, là. Le couvre-feu, c'est un des moyens auxquels le gouvernement pourrait préfère usage afin de limiter la propagation du virus. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que c'est un des moyens qui est choisi par les autorités. Maintenant, le problème que l'on a, c'est que depuis quelque temps, la confiance envers les autorités, qui est souvent due à une communication qui, à mon avis, plutôt moyenne, ben, actuellement, on a un certain manque de confiance, une certaine méfiance envers les autorités, et on est porté à rejeter la plupart des moyens projetés, parce que, entre vous et moi, là, le 28 jours, je ne sais pas combien des auditeurs croient à ça, là, mais je ne pense pas que le 29, tout le monde va être guéri. Là.
Ouais, je pense qu'on n'y croit pas trop, effectivement.
Ouais. C'est ça, on n'y croit pas du tout. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'on va certainement se dire, encore une restriction personnelle, pourquoi, je ne comprends pas et je ne le crois pas. Donc, ça risque d'être, c'est hypothétique, là, mais ça risque d'être très mal reçu parce qu'on ne s'assure pas de la compréhension des gens face aux mesures prises. Et puis, actuellement, je pense que le gouvernement devrait remarquer qu'il y a un certain manque de confiance dans sa gestion de la chose. Mm-hmm. Donc, ça risque pas de passer comme une lettre à la poste.
Oui, mais toi qui vas souvent en France, enfin, qui allais souvent en France, René Villemeux, tu disais, bon, les Français ont peut-être plus l'habitude, mais finalement, pas tant. Là. Je disais qu'il y avait que deux fois, une fois dans la guerre d'Algérie, puis l'autre fois dans la Deuxième Guerre mondiale, quand les nazis ont débarqué, qu'il y a eu un couvre-feu. Mais sinon, je veux dire, c'est pas l'habitude non plus, là, en Europe, de décréter des couvre-feux. Et d'après mes recherches de ce matin, c'est beaucoup plus aux États-Unis, puis ça, c'est plus proche de nous, le couvre-feu.
Oui, mais les États-Unis, vous savez, c'est un pays où les armes circulent facilement. Donc, ils ont une certaine habitude du couvre-feu. Et c'est vrai, la France, en effet, guerre d'Algérie, Seconde Guerre mondiale. Mais disons que le terme n'est pas inconnu. Il n'est pas inconnu aux États-Unis aussi. Mais ici, c'est relativement... c'est pas quelque chose dont on discute souvent. On n'en a pas eu après que l'âge de 8 ans. Donc, on n'est pas habitué vraiment à ça. Ouais. Mais néanmoins, il reste que c'est une mesure qui est extrême parce que c'est une restriction importante des libertés, la liberté de circuler. Et en France, quand on dit pas de fête privée, ça veut dire vraiment vous allez être seul chez vous. Là. Vous n'aurez pas... il n'y a pas de fête à la maison où les gens vont venir coucher pour le week-end.
Ouais.
Mais moi, je vois quelque chose, par contre, avec le couvre-feu, c'est que, vous savez, si on est à Montréal, c'est assez facile de valider la chose. Mais si vous habitez, je ne sais pas, moi, à Shawbridge, ou si vous habitez à Saint-Boniface, c'est pas quelque chose qui va se contrôler. Puis une mesure comme celle-là, si on l'impose, il faut être en mesure de la mettre en pratique et de la contrôler.
Oui, on va revenir aux amendes puis au contrôle, justement. C'est très bon point, René. Jean-Pierre Charbonneau, justement, est un ex-politicien. Jean-Pierre, tu connais bien toute la machine et tout. Juste la décision, le fait de décider d'imposer un couvre-feu aux citoyens, là, ça a dû être... j'aurais aimé ça être dans le meeting, mettons. Ça a dû être...
Mais je pense que quand on regarde les restrictions dans les régions urbaines en France, c'est à peu près semblable à ce qu'on a comme restrictions dans les zones rouges. La différence, c'est que là, on a ajouté une interdiction de circuler
ouais.
à l'extérieur durant la soirée et la nuit. Et moi, je pense que ça serait accepté à une condition, c'est que les gens... par eux-mêmes, constateraient qu'il y a une aggravation significative de la crise. Autrement dit, en France, c'est un peu ce qui arrive actuellement. C'est pour ça que 70% des Français sont plutôt d'accord avec leur président, c'est-à-dire que la situation s'est aggravée à un point tel que là, on trouve que c'est pas démesuré que cette décision du président Macron. Ici, c'est le premier ministre du Québec, parce que ça relèverait... En fait, il faudrait se demander, est-ce que c'est Ottawa ou c'est les...
Mais j'allais te poser la question, d'après toi, c'est la juridiction du fédéral ou le Québec pourrait l'imposer?
Ben, le Québec pourrait l'imposer avec la loi sur la santé publique. Et puis, le fédéral pourrait... Je ne sais pas si la loi sur les mesures de guerre qui a été utilisée il y a 50 ans est encore en vigueur ou s'il y a une loi autre que des mesures d'urgence qui a été... qui a remplacé cette loi-là. Mais encore une fois, il pourrait y avoir double restriction. Il faut se rappeler que la loi des mesures de guerre, Trudeau et les gouvernements, et on en parle de ces jours-ci, ça a été demandé par le gouvernement Bourassa puis par le maire de Montréal. Donc, si au Québec, la situation s'aggravait, quand on regarde les statistiques, là, on se rend compte que le Québec, c'est pas le meilleur endroit au monde. C'est pas nous autres qui faisons la plus belle figure en termes de contrer la propagation de la pandémie. On est parmi pas les derniers de classe, mais on n'est pas vraiment, on n'a rien pour être glorieux. Alors, ça veut dire qu'on est déjà dans une pente en termes d'aggravation de la situation qui pourrait éventuellement conduire nos dirigeants à choisir cette mesure extrême-là. Mais encore une fois, si on voulait qu'elle soit vraiment appliquée, Il faudrait absolument que les gens eux-mêmes se rendent compte que la situation est grave, que le nombre de morts augmente, que les hôpitaux sont plus capables de suivre et qu'ils sont débordés, que le nombre de personnel dans le domaine de la santé, dans les hôpitaux, dans les CHSLD sont en train de crever là, en termes de fatigue et qu'il y a des gens qui abandonnent. Alors là, il y aurait une espèce de prise de conscience qui faciliterait la prise de décision du gouvernement. S'il n'y avait pas ça, Quand M. Villemur, tantôt, parlait du problème de confiance envers les politiciens, encore récemment, l'Institut de la confiance a mesuré ça, les politiciens sont toujours les derniers, ou à peu près dans la cave. Mais ça, c'est vrai depuis tout le temps. Il n'y a pas une crise de confiance actuellement qui est pire que ce que c'était il y a 20 ans. Moi, quand je suis devenu président de l'Assemblée nationale en 1996, quelques semaines avant, l'actualité faisait un reportage sur la confiance envers les politiciens. Puis, savez-vous, c'était quoi le pourcentage? C'était 4% de confiance, un gros 4% à la une de l'actualité, marge d'erreur de 4%. Fait que je disais à la blague, c'est entre 0% de confiance et 8%.
Ouais.
Et aujourd'hui, c'est pas mieux. Alors, il faut faire attention. C'est vrai que les dirigeants politiques...
Non, mais à vous Jean-Pierre, que puis c'est important de parler de la confiance quand on impose, quand on discute d'une mesure aussi restrictive qu'un couvre-feu sur les citoyens. C'est important de parler de la confiance qu'on a envers nos politiciens. Puis, tu sais, sincèrement, c'est pathétique que nos politiciens aient la même popularité que les vendeurs de chars.
C'est pas nouveau. Et c'est pour ça que si tu as un problème de confiance, il faut que l'environnement, en fait, la conjoncture t'aide au niveau de la confiance quand t'en as pas beaucoup.
Ouais.
C'est pour ça que je disais, si la situation s'aggravait au point où les gens le voyaient, le réalisaient de plus en plus, ça faciliterait le travail. Parce que le niveau de confiance envers la classe politique en France puis les dirigeants, c'est pas mieux là-bas qu'ici. Ouais. Hein?
Mais ici, là, depuis les derniers jours, je trouve qu'il y a de plus en plus de citoyens qui le disent. Là, quand, tu sais, sur les réseaux sociaux, partout on les entend. Je veux dire, les gens qui m'appellent, je l'entends bien quand vous me parlez. Puis d'ailleurs, on va aller à la pause, puis vous allez pouvoir intervenir. Puis je veux avoir votre opinion là, sur ce couvre-feu. Si on avait ce genre de mesures ici pour contrer la pandémie, comment réagiriez-vous? Est-ce que vous seriez d'accord avec ça? Mais il y a quand même eu beaucoup d'opposition au masque, beaucoup de gens qui mettent de l'avant la liberté d'expression, le droit de manifester. Bref, ça risquerait, à mon avis, de faire beaucoup, beaucoup réagir. Alors, vos réactions, justement, aujourd'hui là-dessus, on en discute ensemble ce matin, 514-790-9850. Et bien sûr, de l'extérieur de Montréal, c'est toujours le 1-866-790-9850. Alors, la France adopte un couvre-feu qui va entrer en vigueur ce samedi jusqu'au 1er décembre probablement pour contrer la pandémie, le nombre d'infections qui ont beaucoup augmenté et qui inquiètent les Français, comme d'autres pays d'Europe d'ailleurs. En tout cas, en France, ce que le président Macron a décidé, c'est d'imposer un couvre-feu. S'il fallait que nos autorités, que François Legault nous annonce ça, mettons, à 13h dans son point de presse, là, un de ces jours, est-ce que vous seriez d'accord avec ça? Sylvain, vous pensez aux travailleurs de nuit, vous. Bonjour.
Ouais, c'est ça. Moi, je trouve que ça va pénaliser les travailleurs de soir et de nuit. Mm-hmm. Moi, j'ai travaillé de soir une bonne partie de ma vie. Fait que, tout de suite, quand vous avez parlé de ça, ça m'est venu à l'esprit. Là. Je trouve que c'est de la répression par-dessus répression. La campagne de peur, il me semble que de la sensibilisation, ça toucherait pas mal plus de gens. Puis il y aurait peut-être moins de complotistes qui est le mot à la mode de ce temps-ci. Là.
Ouais.
Il me semble que sensibiliser les gens... Et c'est-tu scientifique, cette affaire-là? Je comprends pas. Le virus, il va se cacher pendant la nuit, pendant qu'on est caché. Après ça, on s'en va travailler, le virus réapparaît. Tu sais,
c'est surtout pour éviter que les gens soient en contact, qu'ils sortent dans les bars,
oui,
les restaurants.
Le jour, puis travailler dans les usines, ces affaires-là sont toutes en contact, comprenez? Il y a des choses, là, c'est tellement aberrant. S'il n'y a rien de scientifique là-dedans, s'il n'y a rien de débat avec les pauvres et les comptes, ça réveillerait pas mal plus de monde. On pourrait se faire un jugement. C'est pareil comme si on n'aurait pas le droit de penser, puis on n'a pas le droit de penser qu'il faut écouter le gouvernement tout le temps.
Ouais.
On peut-tu avoir le droit d'avoir notre propre opinion, notre propre jugement, en ayant un vrai débat des pour et des contre? Ben après ça, on en tirera des conclusions. Puis ça, il faudrait que ce soit... Quand ils font des conférences de presse, là, j'ai un peu de misère avec ça, moi, quand c'est des comptables qui décident à la place d'être des scientifiques.
Mm-hmm.
Tu sais, à un moment donné, là, s'il y aurait 2-3 scientifiques qui s'assieraient, que ça, ce serait l'équipe en temps de crise, là, parce qu'on parle d'un virus, là, il me semble.
Mais il y en a un, il y a le docteur Arruda qui est là, puis qui est très présent, là, qui est là à, tout, à tous les points de presse.
On s'entend dessus que s'il y en a un qui nous a mélangé, c'est bien lui.
Merci Sylvain, merci bien. Okay, on a Joanne avec nous. Bonjour Joanne, vous en pensez quoi? Je pense qu'on me dit que vous seriez plutôt d'accord.
Moi, je pense que je serais d'accord parce que même pour avoir de la famille en France puis vérifier un petit peu ce matin, on se parlait. Mais il reste toujours est-il que les enfants sont à l'école, les universités sont ouvertes.
Oui.
Les restaurants sont quand même ouverts jusqu'à 21h, là. Donc, c'est pas une coupure de vie totale. Oui, c'est vrai, entre 21h et 6h le matin. Oui, mais il y a quand même un semblant de on peut sortir quand même le samedi, le dimanche, aller déjeuner, il y a toute un peu cette vie-là, on n'est pas comme cloîtré à la maison définitivement, là. Oui, c'est en période de nuit, mais je pense que moi, pour avoir parlé avec une cousine ce matin, je pense qu'il y a aussi ça aussi que les Français. Puis ils sont d'autant plus pénalisés, c'est qu'eux, c'est sûr qu'ils mangent tard, donc c'est sûr que 21h, normalement, c'est l'heure où c'est qu'il y a une grosse cohue dans les restaurants, effectivement.
Faut que t'ailles chercher ta baguette avant, là.
Exactement.
Tes dernières minutes, ça marchera pas. Mais votre cousine, en France, donc, elle est plutôt pour, Joanne.
Mais elle est plutôt pauvre parce qu'on n'a pas fermé les universités puis toutes les écoles. On a quand même ça parce qu'ici, il y a quand même tout ce problème-là. C'est qu'il y a tellement de jeunes qui sont cloîtrés, vraiment cloîtrés. Fait que je pense qu'il y a ça aussi. Moi, je pense sincèrement que si on aurait ouvert les universités avec le masque, certaines mesures, tout ça, je pense que les jeunes, y auraient peut-être eu moins tendance à se regrouper. Il y aurait eu un semblant de vie dans la journée.
D'accord. Merci beaucoup de votre opinion, Joanne. Merci bien. Martin, votre opinion là-dessus, couvre-feu, si on l'imposait ici, seriez-vous d'accord?
Oui, bonjour. Non, je suis contre. Leurs mesures, d'après moi, ça va pas mal un coup d'épée dans l'eau parce que c'est ce que je crois.
OK.
Puis, en fait, ce que je veux surtout dire, si les médias se mettent ensemble pour demander un couvre-feu, mais on va en avoir un.
Mais là, vous comprenez bien qu'on ne demande pas ça ce matin. Là. On essaie de voir quelle est l'opinion des Québécois par rapport à cette mesure-là qui est imposée
C'est un début, comme quand que les médias ont commencé à demander êtes-vous pour le port du masque obligatoire, êtes-vous pour la fermeture des écoles, la police dans les maisons, la fermeture des restaurants puis des bars. Ils ont tout eu ça. Alors ça commence.
Vous pensez que c'est vraiment les médias, que François Legault écoute les médias, là. Il fait une politique, il base sa politique sur les émissions qui sont faites par les médias ou les informations qui sont véhiculées par les médias?
Certainement.
OK. Oui. Ben merci. Vous avez le droit à votre opinion. Merci beaucoup. Guy, bonjour.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Écoutez, ça ne sera pas différent que les couvre-feux qu'on avait quand on était à l'adolescence. On en a tous eu, d'un. On ne les a peut-être pas toujours respectés, mais on en a toujours eu. Nos parents nous en ont imposé. Est-ce que je vais les respecter s'il y en a un? Je ne suis pas d'accord à la base, parce que si les gens respectaient les consignes juste minimales qu'on nous demande, on n'en arriverait pas là.
Oui, c'est ça. Mais pour vous, est-ce que c'est d'une certaine façon, vous faites la comparaison avec l'adolescence? Je trouve ça intéressant, votre comparaison, parce que c'est vrai qu'à une certaine époque, quand nos parents nous imposaient une certaine heure pour rentrer, sinon on était punis, c'était parce qu'on était plutôt jeunes puis qu'ils s'inquiétaient de notre sécurité. Est-ce que vous estimez que, d'une certaine façon, les gouvernements qui font ça infantilisent leurs citoyens?
Pas qu'ils infantilisent les citoyens, c'est les citoyens qui sont infantilisés qui nous amène à cette situation-là.
Ouais.
C'est l'inverse.
Qui sont immatures, vous voulez dire, les citoyens qui sont...
Exact. Ouais. Il y a des droits, là. Il y a la charte, il y a tout ça, mais même Maître Julius Gray, qui apparaît régulièrement à vos lignes, comme invité à vous, à M. Arquin, le dit. C'est vrai qu'il y a la charte des droits, mais les restrictions, que le gouvernement nous impose, passerait le test de la charte, justement. Il serait conforme. C'est à un moment donné, on vit en société, on n'est pas dans le bois. C'est ça qui me dépasse. Ouais. On grandit dans une société, puis les gens manquent de respect entre eux.
Ouais.
C'est une question de respect aussi. Là,
tout à fait. Merci, Guy. Merci bien. Merci. Claude est avec nous. Bonjour, Claude.
Bonjour. Écoutez, moi, ça serait simple. Ceux qui se font attraper là, parce qu'ils ne veulent pas porter le masque, toutes ces choses-là, on leur remet la contravention et on envoie une note à la carte d'assurance maladie du Québec.
Mm-hmm.
C'est bien regrettable, mais vous ne voulez pas vous conformer aux directives de ce qui se passe au Québec. Bien, vous payerez la facture de ce que ça va coûter pour vous et peut-être vos proches que vous avez contaminés. pas plus compliqué que ça. Mm. Quand ils auront payé une facture de 80-85 000 $ pour une couple de jours aux soins intensifs, il y en a peut-être qui vont faire de la publicité puis ils vont dire, ben ça, c'est pas vraiment des fake news. Là.
Merci, merci Claude, merci beaucoup. Oui, ça, on l'entend et d'ailleurs de plus en plus là, cette suggestion là, de dire à ceux qui sont complètement réfractaires à toute mesure sanitaire, ben tu vas payer le bill de tes soins de santé puis peut-être même de ceux de tes proches si tu te conformes pas. Avant d'aller à la pause, je fais référence à mes invités, Jean-Pierre Charbonneau, ex-député du Parti québécois et ex-président de l'Assemblée nationale du Québec, René Villemur, éthicien. René, bon, là on a entendu plusieurs personnes. Qu'est-ce que tu retires de ça jusqu'à maintenant, de notre discussion jusqu'à maintenant? René Villemur? Ah, on a un petit problème. Bon, est-ce que Jean-Pierre nous entend?
Moi, je t'entends.
Bon, bah, est-ce que René est revenu?
Oui, j'étais sur le mute. Je me suis dit, je disais, ce qu'il y a de commun, et c'est très intéressant, entre la majeure partie des commentaires, c'est qu'il ne semble pas y avoir de compréhension de la situation. Et puis la compréhension, M. Charbonneau le mentionnait au départ, quand les gens comprennent ce qui se passe, on est porté quand même à accepter certaines choses. Mais quand on ne comprend pas, et souvent c'est dû à un déficit de communication, et personnellement, je crois que la communication gouvernementale pourrait être rénovée un peu, là. Mais quand on n'a pas de compréhension, ça handicape la confiance et ça amène la méfiance, puis c'est ça qui fait le geste de défiance en bout de ligne. Parce que même si, oui, les politiciens ont toujours eu une confiance basse, là on est devant un enjeu, on n'est pas en général. Et devant cet enjeu-là, s'il n'y a pas de compréhension, la confiance va être impossible.
Oui, effectivement, Jean-Pierre, c'est ce que tu dis un peu tout à l'heure. La question de confiance est primordiale.
La question de confiance est primordiale, puis la question de la solidarité dans une société. Mm-hmm. Le concept de citoyenneté, c'est d'être membre de la cité. Ça suppose, dans une société démocratique, la solidarité. Si les gens ne sont pas solidaires et qu'ils mettent les autres en danger, là, à un moment donné, il y a quelqu'un qui doit prendre la responsabilité de les obliger à être solidaires. Regarde la situation en France. Le tiers des places en soins intensifs actuellement en France sont occupées par des patients qui ont une forme grave de la COVID-19. Ça, c'est une donnée. Deuxième donnée, sur 60 000 personnes du personnel de la santé qui ont quitté les hôpitaux actuellement en France. Ça veut dire qu'ils ont un déficit de 60 000 personnels de santé. Si on se retrouvait, nous, toute proportion gardée, on est 8,5 millions, ils sont 67 millions, mm-hmm. Si on se retrouvait dans une situation aussi grave, ben justement, il faudrait qu'à un moment donné, ça soit tellement évident que les gens n'aient pas à chicaner, ils se diraient « oui, c'est grave ». Et moi, je pense qu'actuellement, les gens ne réalisent pas le niveau de gravité dans lequel on est dans une pente actuellement. La pente des monte au niveau du nombre de cas, mais la pente descend au niveau de la compréhension puis de la gravité. Ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir que les gens réalisent qu'on est dans une situation délicate, dangereuse, et on ne peut pas se comporter comme si ça n'existait pas. Ça.
Ouais. On va s'arrêter ici, très courte pause. C'est intéressant, au retour, une auditrice qui nous écoute de France, Magali, nous appelle. Elle est de Montpellier, une des villes donc qui va devoir vivre avec ce couvre-feu à partir de samedi. On lui parle tout de suite après ceci, puis bien sûr, vos commentaires au 514-790-9850 1-866-790-9850. Je vous demande s'il fallait que nos autorités en viennent à nous imposer un couvre-feu. Est-ce que vous seriez d'accord? À tout de suite. Alors, on va parler tout de suite à Magali qui nous appelle de Montpellier en France. Bonjour Magali.
Bonjour.
C'est formidable que vous nous écoutiez. Et donc, ça vous fait réagir notre sujet de discussion. On débat justement du fait qu'en France, chez vous, là, vous allez devoir vivre avec un couvre-feu pour contrer la pandémie à partir de samedi. Comment vous voyez la chose, vous, Magali?
C'est très compliqué en France. Déjà, effectivement, le mot couvre-feu, ça relève d'un discours guerrier. Donc, c'est très effrayant. Et ça rappelle de très, très mauvais souvenirs. Ensuite, on est ballotté entre des mesures qui se contredisent, qui sont très localisées, qui ne sont pas nationales. Donc, on est vraiment perdu et ça génère beaucoup d'angoisse chez les gens.
On parlait de la confiance si importante envers les politiciens par les temps qui courent. Est-ce que les Français ont encore confiance, vous diriez, au président Macron pour gérer tout ça?
Je ne sais pas, mais je ne pense pas parce que on ne comprend pas. On a l'impression qu'on nous prend pour des enfants qui ne comprennent rien, qui sont dans une cour de récréation, qui font n'importe quoi. On nous culpabilise sans arrêt et ça devient très pénible. Vous savez, j'écoute souvent parce que ma fille est à Montréal. J'écoute souvent les écoute et vous avez un discours très bienveillant, très protecteur au Canada. Chez nous, c'est tout le temps l'accusation, la faute, le coupable, etc.
Merci Magali, en tout cas, d'avoir pris le temps de nous téléphoner. Merci beaucoup. C'est super intéressant, je trouve. C'est fabuleux parce que la radio nous permet ça, c'est de parler à des gens directement sur place. Puis vous entendez, là, Magali nous dit, ben on comprend pas. Imaginez, je pense que ça, c'est vraiment un point qu'on a peut-être tous en commun. C'est qu'à un moment donné, il y a des gens qui comprennent moins et peut-être au Québec de moins en moins ce qu'on nous explique, puis parfois qu'on nous explique avec difficulté. Ça, c'est l'autre problème. Richard est avec nous. Bonjour, Richard.
Bonjour, Isabelle, ça va bien?
Oui, ça va bien.
Oui, moi, je suis d'accord pour le couvre-feu. Puis en même temps, mais qu'est-ce que la madame disait tantôt, là, qu'on nous prend pour des enfants? Ben oui, on nous prend pour des enfants peut-être, mais si elle s'arrête deux petites secondes et qu'elle pense que le monde qui s'en va aux États-Unis cet hiver en avion, puis qu'ils vont revenir, s'ils tombent malades, mais les petits-enfants, c'est tous nous autres ici qui payent pour eux autres les soigner, mais qu'ils reviennent.
Ouais. Bien, vous savez qu'il y a toujours la quarantaine, hein, normalement, qui doit être suivie pour toute personne qui revient de l'étranger. Et je vous le confirme, il y a un suivi qui est fait quand même de la part des autorités pour savoir si les gens respectent ce couvre-feu. Bien, ce couvre-feu, oui, d'une certaine façon, c'est un couvre-feu parce que tu n'es pas supposé sortir de chez toi. Donc, il y a déjà des gens qui le vivent ici. Merci, Richard. Merci beaucoup. Jean-Pierre Charbonneau et René Villemur, mes invités. Jean-Pierre, je fais appel à toi parce que peut-être que ta mémoire va permettre peut-être aux auditeurs de comprendre. Ceux qui n'auraient pas connu la crise d'octobre, on en parle beaucoup en ce moment parce que c'est octobre, parce que ça fait 50 ans depuis cet événement historique qui a beaucoup marqué les consciences. Chez les jeunes, on est plus dans le cours d'histoire parce qu'ils n'ont pas été marqués par octobre 70. Mais ceux qui, comme toi, s'en souviennent, vont peut-être dire ça a créé chez nous un espèce de sentiment par rapport à toutes ces mesures qu'on veut nous imposer. Qu'est-ce que tu en penses de ça, Jean-Pierre?
Ben, disons que, effectivement, le couvre-feu, la dame de France disait ça lui fait penser à un comportement guerrier. C'est sûr que quand on parle de couvre-feu en général, c'est parce qu'on est dans une situation de guerre ou de guerre appréhendée. Et c'est un peu ce qu'on a fait comme tentative il y a 50 ans. C'est-à-dire qu'on a essayé de dramatiser la situation au point où de justifier l'intervention de l'armée. Puis il y avait, à partir du moment où la loi des mesures de guerre était imposée, il y avait comme une forme de couvre-feu. L'armée se promenait partout, il y avait des perquisitions, etc. Bon, un couvre-feu comme ça va exister en France, c'est pas tout à fait ça. Sauf que, néanmoins, les services d'ordre vont devoir l'appliquer, le couvre-feu. Ça veut dire qu'entre 9h le soir et 6h le matin, les gens qui vont se retrouver à l'extérieur vont risquer d'être interceptés. Bon. Et la dame que tu as interviewée de Montpellier a parlé d'une chose importante, c'est-à-dire la cohérence.
Ouais.
Quand il n'y a pas de cohérence évidente entre des directives, quand c'est plus difficile d'avoir une cohérence quand ça ne s'applique pas de la même façon sur le territoire. Par exemple, nous, on a différentes couleurs de zones. Et là, ça commence à être pas mal rouge un peu partout, sauf dans les grandes régions éloignées périphériques. Mais quand c'est pas tout à fait homogène et uniforme, mais là, les gens ont de la difficulté à avoir la cohérence entre... Parce que la frontière apparaît pas, là, t'sais. Et c'est pour ça que la confiance, ça doit reposer sur la cohérence des autorités, la cohérence des directives, la clarté des directives aussi. Puis, et je pense que M. Villemur avait raison aussi, la compréhension.
Ben voilà, c'est ça.
La compréhension, ça veut dire si tu comprends, ben je veux dire, tu es plus en mesure d'être solidaire avec les directives qui sont imposées.
Voilà, oui.
Mais en même temps, quand on regarde les comportements, quand le monde veut encore aller jouer au bingo, là, ben je veux dire, à un moment donné, on peut se demander où est le niveau de maturité, là.
Ouais, exactement. René, là-dessus, parce qu'effectivement, tout à l'heure, tu disais, il faudra vraiment s'assurer de la compréhension des gens, de ce qui va vraiment être fait si on décidait de mettre en place un couvre-feu au Québec. Mais tu sais, il y a eu des manifs anti-masque, anti tubrime mes droits, puis il y aurait sans doute des manifs anti-couvre-feu, là. Faudrait s'attendre à ça.
Il y aurait des soirées à la chandelle, certainement. Des manifestations à la chandelle. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que je reviens encore sur compréhension. La compréhension, là, c'est la capacité à saisir l'ensemble d'une situation. Et présentement, ce que M. Charbonneau amène, le manque de cohérence fait qu'on le sait pas. C'est interprété d'une certaine façon et d'une autre. Au cours du mois d'octobre, on a dit, vous pouvez recevoir une personne à la maison si c'est une aidante ou un aidant naturel. Mais il y a des gens qui m'ont dit, ben moi, je dîne avec un de mes amis chaque soir, pas le même ami. Mais c'est la compréhension, ça n'a pas été, pourtant, c'était pas très, très difficile à comprendre celle-là, mais ça n'a pas été assuré. Je pense que il y a la compréhension des citoyens, mais le législateur a la responsabilité de s'assurer lui-même de la compréhension par les gens, parce que il va être le premier à en souffrir du manque de compréhension.
Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même plus de gens qu'on pense qui comprennent au Québec ce qui se passe, qui comprennent les mesures, parce qu'il faut quand même pas faire exprès de pas comprendre non plus. Là, on peut dire, ouais, c'est pas toujours clair, mais en gros, je pense qu'on comprend ce qu'ils disent là, à une heure tous les jours. Je veux dire, à un moment donné, si t'as pas compris du tout, là, fais-toi expliquer, mais on peut plus t'aider. C'est... Je pense qu'il y a du monde qui retarde le groupe, là. Faut exprès.
Isabelle, je sais pas, mais tu sais, dans le fond, si t'as 80-90% d'une population qui accepte et qui comprend, c'est beaucoup. Mais ça prend juste quelques milliers de personnes pour avoir pour donner l'impression, d'un point de vue médiatique, qu'il y a beaucoup de gens qui finalement sont contre.
Mais moi, je pense que c'est pas que le monde comprend pas tant que ça. C'est que les gens décident de ne pas suivre les consignes. Tu sais, ton exemple, René, de dire, ben la personne a compris que c'était juste une personne à la fois. OK, ben je vais avoir un ami chaque soir différent. Là, c'est conscient ton affaire, tu comprends?
Ben oui, mais c'est ça.
Mais la réalité, c'est qu'elle a pas compris.
A compris, c'est un à la fois, tu sais.
Mais c'est son interprétation là, de la chose. C'est ça, là. C'est qu'on n'a pas une compréhension d'une interprétation. Mais je reviens tantôt, ben, excellent point, M. Chambonneau, sur la solidarité aussi. C'est que dans un grand groupe comme ça, il faut bien voir que si, par exemple, 90% des gens observent, l'autre 10% est susceptible d'infecter bien du monde hors de la période du couvre-feu. Alors, c'est la virulence, là. C'est pas comme si on se protège d'un ennemi qui va venir nous voir le soir. La virulence, elle est élevée dans ce cas-là. Et puis, je pense que les gens choisissent de croire certaines choses en disant qu'ils comprennent. Moi, la compréhension, c'est la clé de la vie ensemble.
Ouais.
Et puis, généralement, ça prend juste une interprétation ou deux, d'un degré ou deux, et puis tout le monde a sa vérité rendu là.
Mm-hmm.
Puis personne trouve que c'est pas correct. Donc, la vérité de l'un, de la vérité de l'autre, incompréhension.
Ouais.
Et on regarde un peu partout, là, la plupart des pays actuellement ont décidé d'avoir recours à des mesures contraignantes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que spontanément, les gens ne sont pas nécessairement enclins à toujours respecter la solidarité civique et à être respectueux des directives. Donc, il y a une espèce de volonté de faire à sa tête, plus ou moins consciente ou plus ou moins forte.
Ouais.
Et ça fait en sorte qu'un peu partout dans le monde, les autorités sont obligées d'avoir recours à des mesures de plus en plus dures et contraignantes.
Mm.
Bon, la mesure du couvre-feu en France... quand on regarde les autres mesures autour des pays, dans les pays voisins de la France, c'est pas loin du couvre-feu non plus.
Oui, exact, tout à fait. Puis il y a des Québécois qui m'écrivent là, en ce moment, des gens là, d'ici qui me disent « Regardez ce qu'on vit, nous, là. À part le fait qu'ils te mettent pas de contravention entre 9h du soir et 6h du matin, ça ressemble pas mal à ça, là. »
Dans les zones rouges, nous, actuellement, c'est plus sévère qu'à Paris. Les restaurants à Paris sont encore ouverts jusqu'en 9h. Ici, non?
Non. Mais et peut-être que... Est-ce qu'un couvre-feu serait pas mieux, finalement, considérant qu'à ce moment-là, on garderait nos restaurants et d'autres industries ouvertes jusqu'à 9 heures, mettons, puis à 9 heures, ça ferme jusqu'au lendemain matin. Il y aurait juste les bars, dans le fond. Là. Dans le fond, ça pointerait du doigt surtout l'industrie des bars.
Ben ça, c'est exactement un beau problème de cohérence.
Ouais.
Est-ce que, finalement, si on laisse les restaurants ouverts jusqu'à 9 heures, puis qu'après ça, on fait comme qu'on fait un couvre-feu, puis qu'on interdit... Est-ce que c'est mieux que, finalement, actuellement, où les restaurants sont fermés? Moi, je pense qu'actuellement, au Québec, c'est plus cohérent. C'est-à-dire, si c'est dangereux, c'est dangereux avant 9h puis après 9h le soir. Hein?
Ben oui, mais donc, c'est pour ça que les gens me disent, OK, expliquez-moi pourquoi les écoles sont ouvertes puis qu'on a le droit d'aller travailler. Macron, il a dit aux citoyens français, s'il vous plaît, si possible, faites du télétravail. Nous, on nous dit pas ça forcément. On nous dit oui, c'est recommandé, télétravail si vous pouvez, mais retournez donc au bureau aussi. Donc là aussi, c'est incohérent. Là, je comprends que les gens soient mêlés. On va à la pause, on revient là-dessus. Et nos lignes sont toujours pleines, alors on va essayer de vous donner le plus possible la parole. À tout de suite. Alors, il y a des gens qui me disent, comme Francine, que le couvre-feu serait une solution chez nous. Les restos pourraient rester ouverts, même les bars. Ainsi, ils ne seraient pas les seuls pénalisés. On changerait notre mode de vie, aller au resto plutôt en soirée, socialiser dans un 5 à 7. Les centres d'achat seraient à nouveau achalandés, mais on vivrait plutôt le jour. Ça serait quand même mieux que de pouvoir rien faire. Gaston, votre opinion sur un couvre-feu, par exemple, qui pourrait être imposé chez nous, c'est pas le cas, mais bon, c'est une des mesures que de plus en plus de pays, dont la France, vont mettre en vigueur. Entre autres, chez les Français, c'est samedi. Comment vous voyez ça, vous, Gaston?
Moi, c'est acceptable. Écoute, il y a juste une chose, c'est le montant de la contravention. Si je trouvais coupable, tu me donnes une contravention de 1500 à 2000$, première chose, m'en contester.
Ouais.
Et tu restes ça le plus longtemps possible, m'en aller le chercher, m'en te la payer en 2 ans. Tu me donnes une contravention de 150$, je ne prendrais pas une journée de travail pour aller contester, je vais la payer. Le montant est tellement exorbitant que là, même les policiers sont gênés de la donner à contravention.
Ouais.
Parce que s'ils donnent la contravention, ils vont peut-être enlever le manger de sa table. Tu sais, 1500, 2000, ça n'a aucun sens.
Oui, ça, c'est pour les. En France, c'est pour les récidivistes, entre autres. Là. Si tu te fais pogner une fois, c'est 135 €. Si tu te fais pogner encore, c'est.
Ouais. Pour ce qui est du couvre-feu, si ça permet aux restaurants et à d'autres choses de pouvoir ouvrir et de se maintenir en vie et à flot, aucun problème.
Oui, peut-être que 9h, c'est de bonne heure quand même, mettrait peut-être 22h. Oui, parce que je vous parlais tout à l'heure d'Illumi. Moi, je suis allée là, j'avais pris rendez-vous pour l'activité de Cavalia à 20h du soir. On a fini vers 9h15 à peu près. Ça aurait été plate de finir ça plus tôt. Alors, peut-être un 10h, mais hey, je veux pas donner raison à Martin tout à l'heure qui pensait que les médias soufflaient dans l'oreille de François Legault. Les amis, je vous rassure, c'est vraiment loin d'être le cas. On a avec... Merci, Gaston. On a Dominique qui est avec nous. Bonjour, Dominique. Votre opinion là, sur un couvre-feu?
Ah, j'espère que non. Mm-hmm. J'espère que non, parce que tu sais, déjà, là, on réussit à accepter un peu ce qui se passe, à s'habituer à tout ça, mais on dirait qu'à chaque fois qu'ils nous remettent une autre restriction,
mm-hmm.
c'est toujours de remettre tout en question. Là. C'est-à-dire, bon, on est rendu où avec ça? On est rendu où dans tu sais, qu'est-ce qui brime nos droits là-dedans? Est-ce que ça brime nos droits? Est-ce que, tu sais, à chaque fois qu'ils rajoutent quelque chose, ça ramène des questions? Non, j'espère que ça n'arrivera pas là. Puis il y a juste une autre chose que je voulais mentionner, Isabelle, là, parce que...
Oui, allez-y très rapidement.
Oui, j'ai écouté Paul Arcand ce matin, là, OK? Puis ça me dérange et je ne comprends pas comment est-ce que les Juifs assidiques ont eu droit à un appel du docteur Arruda samedi matin pour les prévenir de...
Ouais,
comprends bien les accommodements raisonnables, mais on s'en va où avec ça? Ces personnes-là, ils n'écoutent rien.
Mm.
Il y avait 1000 personnes, il y a eu une coupe d'étiquettes de données.
Et vous avez raison de dire que ça, c'est sûr que ça aide pas la compréhension, ça aide pas la solidarité, à la cohésion. Merci beaucoup, Dominique, de votre intervention. Je vais donner la parole vite parce qu'il nous reste 2 minutes, mais il y a Yves, qui est un Québécois qui est en France, qui nous appelle. Bonjour, Yves.
Bonjour, Isabelle.
On vous écoute. Le couvre-feu, comment vous voyez ça, vous, de là-bas?
Ben moi, comme j'écrivais tantôt... Moi, je le considère comme pas mal moins drastique qu'est-ce qu'on a vécu au mois de mars avec le confinement et nos petits papiers pour se promener. On avait le droit d'aller au supermarché, donc ça ou à la pharmacie, c'est tout. Le confinement qui soit à 21h jusqu'à 6h du matin, nous, ça touche un peu, mais je dirais que ça nous touche beaucoup moins que ce qu'on a vécu au mois de mars. J'aime autant avoir un confinement. Pas un confinement, mais je veux dire un couvre-feu comme ça.
Mm.
Qu'un confinement complet avec des papiers, là, c'est le bordel, je te jure.
C'était pas drôle,
hein? D'aller à l'épicerie.
Ah oui, vous êtes où, vous,
mal à l'épicerie.
Vous habitez où, Yves?
Moi, je suis pas vraiment touché encore, non, mais je suis à Strasbourg. Puis, Strasbourg en Alsace.
Oui, oui.
Et puis, je pense qu'on va le vivre aussi, nous autres aussi, là, ça se va bien.
Oui, quand vous regardez.
Et je pense que vous allez le vivre aussi parce que il y a François Legault qui a retweeté le tweet du président Macron avec la proposition du
couvre-feu. C'est
donc,
vrai.
Ouais.
Fait que vous pensez que ça nous pend au nez?
Ben, je pense qu'il y a beaucoup de mesures qui ont été prises en France, qui ont été recopiées au Québec, donc peut-être pas tous, mais ça annonce mal.
Ouais, quand vous regardez ce qui se passe ici, de la France, comment vous voyez ça?
Ben moi, c'est comme si je regarderais les news ici, puis je regarde les news au Québec.
Ouais.
C'est du pareil au même, je dirais. Nos services médicaux débordent, pas assez de staff, manque d'équipement.
Ouais.
C'est du pareil au même. On vit la même chose.
Ben merci beaucoup, Yves, d'avoir pris le temps de nous parler de là-bas. Yves est un Québécois qui vit en France. Il nous dit que ça risque de nous pendonner. On verra. René Villemur, éthicien, merci. Jean-Pierre Charbonneau, ex-président de l'Assemblée nationale, toujours un plaisir. On se retrouve après les nouvelles.